On a chanté des chants. J'ai noté ce qui avait été chanté. Si la mer se déchaîne, on va en parler ce matin. Mes yeux se tournent vers toi. On va en parler ce matin. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. On va en parler ce matin. Merci Seigneur pour la façon dont tu conduis les choses, parce que tu les conduis toujours à merveille. Ton esprit est un esprit de perfection. Alors je commencerai ce message par une question. Celle que Jésus a posée à Pierre après la résurrection et la dernière pêche miraculeuse qu'il a faite avec ses disciples. Vous vous souvenez de cette question qu'il a posée à Pierre ? Pierre, m'aimes-tu ? C'est dans Jean 21, 15. Quelle question ! Et en plus, Jésus a insisté par trois fois, au point que Pierre fut attristé. Et si le Seigneur nous posait ce matin cette même question, m'aimes-tu ? Que répondrions-nous ? Je vous laisse répondre. Voilà. Il y a déjà une voix, une voix qu'on entend là. Oui ? Oui ? Oui ? Alléluia. Et s'il insistait, comme avec Pierre, en nous disant, m'aimes-tu vraiment ? Oui ? Il n'y a pas beaucoup de oui, hein. Ça nous interpelle, n'est-ce pas, ça ? Oui. Je vous assurais que personnellement, ça m'a interpellé. Pas tout de suite, hein. Merci. D'autant plus lorsque j'ai découvert le sens que Jésus donne à « m'aimes-tu vraiment ?» Il y a un sens à cela. Ça vous intéresse de savoir ? Vous l'avez déjà eu là. Dans Jean, tu peux l'afficher maintenant, Pascal. Merci. Dans Jean 14, 21, Jésus dit « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions. » Et j'ai mis entre parenthèses, c'est-à-dire mes paroles. « Et s'applique à les observer. » Et j'ai mis entre parenthèses, à les mettre en œuvre. Je ne pense pas que je trahis le sens de ce verset. « Mon Père aime celui qui m'aime. » C'est-à-dire celui qui retient mes instructions et les applique. C'est ce qui est dit au-dessus. Et Jésus poursuit. Moi aussi, j'aime celui qui m'aime, comme mon Père. Et je lui témoignerai mon amour et lui révélerai qui je suis. C'est dans la version parole vivante. Quelle promesse encourageante! Vous ne trouvez pas? Et cette parole, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer, m'a aussi fait penser à une autre parole dans Matthieu 7, 21, 23. Qui dit, donc vous verrez, cette parole peut-être vous sembler dure, mais vous verrez aussi que ça peut amener à des transformations. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », autrement dit « Je t'aime », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. C'est Jésus qui parle. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, en ton nom. » Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. et je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal, c'est-à-dire vous qui n'accomplissez pas la volonté de mon Père. C'est dans Matthieu 7, 21, 23. Alors ce sont des propos qui peuvent paraître durs, mais dans tout son amour, Jésus n'a jamais masqué la vérité. Aussi difficile à entendre soit-elle. Et pour illustrer cette parole de Jésus, donc, je ne vous ai jamais connu, je vous propose le témoignage d'un prêtre. Voilà. Vous allez me dire, mais où il en est, Gérard, là ? Ce qui n'est pas très habituel dans un culte évangélique. Mais vous verrez un témoignage ô combien édifiant. Le titre de son témoignage, c'est « Prêtre, mais inconnu de Dieu ». Et ce prêtre s'appelle Joseph Tremblay. En voici un très court extrait. Et vous allez comprendre au fil du message le pourquoi de ce message. Je suis né au Québec. C'est son témoignage. J'avais un intense désir de servir Dieu du mieux que je pourrais. Un cœur extrêmement disposé. Je voulais tout lui consacrer afin de lui plaire le plus possible. Après plusieurs années d'études, je fus ordonné prêtre près de Rome, puis envoyé comme missionnaire en Bolivie et au Chili. Mes compagnons de travail, les autres prêtres, regardaient avec une certaine ironie mes goûts prononcés pour l'étude de la Bible. Ils m'appelaient Joe la Bible. Son prénom, c'était Joseph. Je découvris que beaucoup de dogmes, c'est lui qui parle, que l'on m'avait enseigné, étaient absents de la Bible. Ces études me démontrèrent que je ne connaissais pas la Bible. Un dimanche que je devais prêcher dans ma paroisse, je pris Matthieu 7, 21, 23. Je connaissais mes paroissiens. Je voulais attirer leur attention sur la vaine gloire que manifestaient certains devant tout ce qu'ils faisaient, oubliant bien souvent ces bonnes œuvres, que ces bonnes hommes ne font que camoufler un cœur, je n'utiliserai pas son mot, mais un cœur pas très droit. À mesure que je parlais, il prêchait là-dessus, je sentais que la parole de Dieu me revenait dans la figure comme une balle de ping-pong. À lui. Quelqu'un parlait à mon cœur pendant mon sermon. Et c'est cette parole qui résonnait à mes oreilles. Je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Et ma réponse fut, mais comment est-ce possible, mon Dieu, que tu ne me connaisses pas? Comment est-ce possible? Et dans son esprit sont venues toutes ces questions. Ne suis-je pas ton prêtre? C'est son témoignage. Ne suis-je pas religieux? Regarde tous les sacrifices que j'ai faits jusqu'à cette date. Études pendant des années. Séparation de mes parents, de mon pays, vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. C'est lui qui parle. Hein. Et il parle à Dieu. Il disait, mais Seigneur, t'as jamais vu ce que j'ai fait? Te consacrant toutes mes richesses, tout mon corps, et même ma volonté, afin de mieux te servir. On a vu au début de son témoignage qu'il avait vraiment à cœur de servir. et tu vas me dire que tu ne m'as jamais connu? Considère de plus toutes les souffrances que j'ai endurées dans ma vie de missionnaire. Je n'ai pas toujours mangé à ma faim. J'ai pleuré avec ceux qui pleuraient. J'ai baptisé des centaines de bébés. Entendu des milliers de confessions. Consolé beaucoup d'âmes éplorées et découragées. J'ai souffert le froid, la solitude, le mépris, l'ingratitude et les menaces. Je suis prêt, même prêt à donner ma vie pour toi. Et il dit, malgré tous ces arguments que j'apportais devant Dieu, cette même condamnation continuait à teinter dans mes oreilles, je ne t'ai jamais connu. Alors je me trouvais à bout d'arguments et de force. J'allais éclater en sanglots et je pleurais. Il s'effondrait. Et il poursuit un peu plus loin. Je passe une partie. C'est ce moment-là que Dieu espérait pour me présenter sa grâce. C'est par cette première parole que Dieu me présenta son salut. Et je vous lis la parole. C'est Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est par elle, cette parole, que j'ai compris mon erreur et le pourquoi du rejet de Dieu. Avec raison, il ne me connaissait pas. Et c'est là qu'on voit qu'une parole qui peut sembler dure, je ne vous ai jamais connu, peut à un moment donné, dans un cœur, provoquer un sursaut extraordinaire. Donc, prêtre inconnu de Dieu, c'est un témoignage très fort sur lequel ce frère développe ensuite, ceux qui voudront le lire le pourront, il développe ensuite tout son cheminement en s'appuyant exclusivement sur la parole de Dieu. Exclusivement. C'est un témoignage qui est très enrichissant, également pour nous, hein, car il s'appuie avec force sur les fondements bibliques du salut, rappelant à ce sujet de très nombreux versets clés sur lesquels nous pouvons, nous devons fonder notre marche d'hommes et femmes nés de nouveau. Ce témoignage nous rappelle aussi que nos œuvres, ou celles des autres, aussi grandes soient-elles, provenant d'organisations aussi prestigieuses soient-elles, ne sont pas un gage de salut. Mais que nous sommes sauvés seulement par le moyen de la foi en Jésus, en Jésus-Christ et en personne d'autre. Que c'est une grâce, que c'est un don de Dieu et que personne ne peut s'en glorifier. Amen. Donc maintenant, né de nouveau, d'eau et d'esprit, Joseph Tremblay, il a quitté son église, rejoint une église évangélique et témoigné au monde, durant toute sa vie, du vrai message de salut en Christ. Notamment à la radio, à la télé, il a couvert un terrain énorme. Il a ainsi, comme le dit Jésus, dans Jean 14, 21, qu'on a lu ce matin, il a retenu ses instructions, s'est appliqué à les observer, et en retour, Jésus lui a témoigné son amour et lui a révélé qui il était. Voilà. Je lui témoignerai mon amour et lui révélerai que je suis celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Amen. Vous voyez, même à partir d'une parole difficile, des transformations se font. Alors donc ce matin, comme dans ce témoignage, à nous qui l'aimons vraiment, vous l'avez tous dit tout à l'heure, je suis témoin, j'ai noté. Jésus veut continuer à nous témoigner son amour et nous révéler qui il est, comme il vient de nous le dire. C'est super, non? En d'autres termes, il nous dit qu'il a à cœur que notre relation avec lui se développe, notamment au travers d'une connaissance de plus en plus approfondie de sa parole et de sa personne. Je lui révélerai qui je suis. Alors, pour que cette relation intime que Jésus souhaite entre lui et nous puisse s'établir et fonctionne bien, c'est ce que vous souhaitez aussi, qu'il y ait une relation intime entre Jésus et nous, qui s'établisse et fonctionne bien. Non? Oui, alléluia. Il n'y a qu'une seule solution efficace. Pas 36, à une. C'est donc simple à retenir. On n'aurait pas grand-chose à retenir ce matin. C'est de garder les regards fixés sur Jésus. À partir de là, on est dans le chemin parfait. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, et ça provient de l'Épître aux Hébreux, cette parole, nous dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à la perfection. » Dans Hébreux 12:2, dans la Nouvelle Français Courant comme version. À la perfection, ça veut dire à sa pleine maturité. Un super programme, non? C'est le programme de notre vie. Si vous ne le connaissiez pas, maintenant vous le savez. Maintenant, vous allez repartir d'ici, ce matin, avec un programme. Demandez le programme, vous l'avez. Et garder les yeux fixés sur Jésus, ça veut dire quoi, en quelques mots? Eh bien, porter toute notre attention sur sa personne, sa parole et son œuvre. Y placer toute notre foi et la mettre en action. Ah, et la mettre en action. Et quand Jésus nous dit qu'il mènera notre foi à maturité, donc à la perfection, c'est-à-dire à maturité, ce n'est pas une vaine promesse, hein. Quand Jésus dit quelque chose, il l'applique. Plus nous mettons notre foi dans sa parole en action, plus nous en verrons les résultats de cette parole, et plus elle grandira, notre foi. C'est comme ça que ça marche. Vous voulez le programme, vous l'avez. Si nous ne mettons pas notre foi en action, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle végétera. Elle végétera. Comme une plante qu'on n'arrose pas. Vous savez, Jacques ne dit rien d'autre quand il dit « La foi, sans les actes, ne sert à rien. » C'est dans Jacques 2,9, c'est la version du semeur. Ce qui signifie que la foi, sans sa mise en œuvre, c'est-à-dire sans sa mise en action, ne sert à rien. C'est pour cela que Jésus tient à nous faire comprendre chaque jour un peu plus qui il est au travers de sa parole, de son œuvre, nous faire comprendre ce qu'il attend de nous pour nous encourager à mettre notre foi en action. Jésus nous encourage chaque jour par sa parole à mettre notre foi en action. Et ainsi à la faire grandir. C'est ce à quoi il s'est engagé, hein. Mais il peut le faire qu'avec nous, hein. Il ne peut pas le faire sans nous. Et à l'amener ainsi progressivement à maturité. Rien que cela déjà, même si on devait s'arrêter là ce matin. Rien que cela, n'est-ce pas une motivation majeure pour nous encourager à garder les yeux, le regard fixé sur Jésus? Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas? Vous savez, si ce n'est pas sur Jésus que nous fixons les regards, nous les fixerons ailleurs. C'est notre nature. Nous sommes ainsi faits. Nous fixons toujours les yeux, nos pensées, quelque part ou sur quelque chose. Tout dans ce monde est fait pour détourner nos regards et nos pensées, n'est-ce pas? Tellement de choses et de situations peuvent capter notre regard. Alors par exemple, quand les difficultés apparaissent, quand les épreuves surgissent, et aucun n'y échappe aux épreuves, hein, qui a échappé à des épreuves parmi nous? Levez la main. Aucun. Comment réagissons-nous? Sur qui ou quoi comptons-nous pour essayer de sortir de nos problèmes et de nos difficultés? Vers qui tournons-nous nos regards en premier? En premier? Vers qui tournons-nous nos regards en premier? Vers qui allons-nous rechercher la solution en premier? Dans notre société hyper technologique, hyper protectrice, hyper connectée, vers qui allons-nous chercher la solution en premier? Soyons honnêtes. Notre smartphone? Sur des solutions humaines, aussi performantes soient-elles? Sur nos assurances? Aujourd'hui, dans nos pays développés, nous sommes assurés sur tout. Et pour tout. N'est-ce pas? Surtout en France, hein. Un des pays les plus protecteurs du monde. Alors quand nous avons un problème, sur quoi allons-nous? Tournons-nous nos regards? Tout cela, donc, bien sûr, n'est pas à rejeter, hein. Au contraire. C'est un réel progrès pour notre être naturel. Mais est-ce qu'on ne s'appuie pas parfois un peu trop en premier sur cet environnement rassurant, protecteur et si facile d'accès, en oubliant dans un premier temps celui à qui rien n'est impossible, c'est-à-dire Jésus. Et là, j'assure que je parle aussi pour moi. Car ce n'est pas toujours instinctif. Jésus ne dit-il pas, dans Matthieu 6, 33, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » C'est vraiment une invitation clair à nous tourner vers Dieu en premier, en toutes circonstances. Alors voici, on a vu un exemple, un témoignage tout à l'heure, Voici donc d'autres exemples, cette fois bibliques. Donc deux exemples, j'ai pris dans la Bible, que l'on pourrait méditer parmi d'autres. Toujours à ce sujet, à ce propos. Premier exemple. Jésus nous dit dans Matthieu 7, 24 à 27, c'est le sermon sur la montagne, pour ceux qui connaissent, que deux hommes avaient construit chacun sa propre maison. Probablement les mêmes maisons. Hein. Le premier l'avait construite sur le roc et le deuxième sur le sable. Vous vous souvenez de cette parabole du sermon sur la montagne ? Hein ? Tout le monde connaît cette parabole. Le vent a soufflé sur leur maison. Les pluies diluviennes sont tombées. Et les torrents se sont jetés contre elles. Vous remarquerez une chose, que les deux maisons ont subi les mêmes épreuves. Il n'y a pas eu de différence entre l'une et l'autre. C'était en apparence les mêmes maisons. Seuls leurs fondements, et les fondements sont invisibles, étaient différents. Celle construite sur le roc a tenu le coup, tandis que l'autre s'est effondré. Ces maisons ne sont-elles pas l'image de nos vies ? Deux vies pourront être en apparence très semblables, sans différence visible, mais avec des fondements différents. Et nous avons vu dans le témoignage de Joseph Tremblay tout à l'heure que de visu, la maison qui était semblait hyper solide. Hyper solide. Vous avez vu donc le nombre d'œuvres que cet homme a accomplies jusqu'à être prêt à donner sa vie pour Jésus. Mais les fondements n'étaient pas là. Les fondements n'étaient pas les bons. Dès que l'épreuve est venue, les choses étaient balayées. Donc la maison ou la vie qui s'appuie principalement sur les solutions et valeurs de notre société sera très fragile. On l'a bien compris, hein, quand viendront les épreuves. Celle, par contre, qu'elle est construite, c'est-à-dire véritablement ancrée dans la parole de Dieu, c'est-à-dire en Jésus, le rocher, résistera mieux à toutes les épreuves. Donc je le répète, quand elles surviennent, les épreuves, sur qui comptons-nous ? Quels sont nos repères ? Où se situe Jésus dans nos priorités ? Sur qui ou quoi fixons-nous nos regards ? Édouard Motte, j'ai pris une citation, Édouard Motte, était un pasteur baptiste. Mais je préfère dire né d'en haut pour faire abstraction des étiquettes réductrices. Il était aussi auteur d'hymnes. Et il a écrit dans l'un d'entre eux, « Quand tout cède autour de mon âme, Jésus est alors tout mon espoir et mon soutien. Sur Christ, le rocher solide, je me tiens. Alors, ailleurs n'est que sable mouvant. » Hymne du pasteur Édouard Motte. Ailleurs n'est que sable mouvant. Et pour la petite histoire, j'ai aimé cette petite histoire, donc je vous la donne. Édouard Motte disait aussi aux fidèles de l'assemblée où il était pasteur, si un jour je cessais de prêcher Christ, alors chassez-moi de là. Plutôt radical, non ? Mais non, j'irais plutôt conscient de la mission qui était la sienne, garder les yeux fixés sur Jésus. Vous savez, hein, c'est dans les jours d'épreuve, maladie, perte d'emploi, problèmes financiers, familiaux, que l'on découvre de quoi est faite notre foi. Où est ancrée notre confiance ? En nous ? Dans les autres, notre société, ou en Christ? Et c'est l'épreuve, lorsqu'elle est surmontée, en mettant en action notre foi en Christ, qui nous fait grandir en lui. C'est comme cela, selon sa promesse, que nous avons tout à l'heure, que Jésus amène pas à pas notre foi à la perfection. Amen. Et en cela, tout de même, nous ne sommes pas seuls. Hein. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Un pasteur a écrit également, « Si nous devions définir le caractère d'un homme qui vit par l'Esprit, nous dirions qu'il a les yeux fixés sur Jésus. » Si nous devions définir le caractère d'un homme qui vit par l'Esprit, nous dirions qu'il a les yeux fixés sur Jésus. Donc voyez un peu l'importance de garder les yeux fixés sur Jésus. Comment cela se passe-t-il en pratique ? Ben simplement, au travers du choix que nous faisons, dans l'épreuve, de tourner notre foi, nos regards, du moins avec foi, nos regards, vers Jésus, en nous appuyant sur ses promesses, et en ne craignant pas de les proclamer sur notre situation. Car les promesses de Dieu sont là, on peut s'appuyer sur elles, les saisir, et les proclamer sur notre situation. Nous pouvons alors, dans cette démarche, compter sur l'Esprit de Dieu pour nous donner sa puissance, son amour, sa sagesse, et pour nous faire sortir ainsi de l'épreuve selon le timing de Dieu. Car il reste souverain. Et sachez qu'il n'y a pas une situation sans qu'il existe une promesse de Dieu sur laquelle s'appuyer. Il n'y a pas de situation qui existe sans qu'une promesse de Dieu existe également sur laquelle nous puissions nous appuyer. Et il y a des recueils de promesses à la librairie. Pour ceux qui le veulent, vous pourrez aller voir notre libraire, notre cher libraire. Et voilà. Deuxième exemple. Il y avait un chant qui disait ce matin, entends le son des cœurs qui reviennent à toi, mais également, si la mer se déchaîne. Deuxième exemple. Vous vous doutez de l'exemple que je vais prendre après ce chant. Dans Matthieu 14, 24-32, qui nous parle d'une mer agitée. Les disciples sont affolés. Hein. Wow. Et Jésus vient à leur secours en marchant sur la mer. Vous vous souvenez de cet épisode ? Alors Pierre, je réduis, hein, reconnaissant que c'est Jésus qui s'approchait, demande à aller vers lui. Est-ce que je peux aller vers toi, Seigneur, Maître ? Jésus lui dit, viens, viens. Il n'a pas dit beaucoup grand-chose, Jésus, il a dit simplement, viens. Parole courte, hein ? Alors Pierre, sur cette parole, en pleine confiance, car c'est Jésus qui lui a parlé, s'appuyant sur cette parole de Jésus, viens, fixa son regard sur Jésus, ne pensa à rien d'autre, les yeux fixés sur Jésus, sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers lui. Il fixait les regards sur Jésus, sur une parole de Jésus qui était « Viens ». Mais tout à coup, prenant conscience que le vent était fort, il y avait des vagues, il eut peur et commença à s'enfoncer. Que s'est-il passé? Malgré les éléments déchaînés, qui correspondent à une grosse épreuve, tant que Pierre a fixé son regard sur Jésus, pleinement confiant dans la parole de son Seigneur, viens, il dominait les éléments. Il avait les yeux fixés sur Jésus. Et ces éléments qui n'avaient aucune influence sur lui. Il marchait sur la mer comme sur un rocher. Et puis d'un seul coup, on ne sait pourquoi, quoique on le comprend, hein. Sa nature humaine, probablement son instinct de survie, l'idée que ce qui se passait était inconcevable, irréel, tout cela a pris le dessus. Et il a porté son regard sur les éléments déchaînés. Et pour porter son regard sur les éléments déchaînés, il les a détournés du regard de Jésus. Waouh, c'est pas possible. C'est inconcevable. Donc, il prit peur. Et il s'enfonça. Alors que la promesse de Jésus, c'était « Viens, je suis là. Tu n'as rien à craindre. » Alors, il a craint pour sa vie. Il a eu peur. Il s'est dit « Je vais y passer. » Son instinct de survie a pris le dessus, oubliant que Jésus était là, à ses côtés. Et il commence à s'enfoncer. Honnêtement, je suis même pas sûr que j'aurais quitté la barque. Ceci dit, malgré cela, Jésus n'a pas abandonné Pierre. Il l'a pris par la main. Et l'a ramené en lieu sûr, dans la barque. En quelque sorte, Jésus a honoré la foi que Pierre avait commencé à mettre en action dans cette épreuve. Amen. C'est donc ainsi que Jésus fait grandir progressivement notre foi pour l'amener à sa pleine maturité. Il honore les petites mesures de foi qu'il fait naître successivement en nous lorsque nous les mettons en action. Le psaume 37:24 que je n'ai pas mis à l'écran dit « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. » C'est ce que Jésus a fait pour Pierre. Vous avez compris que là encore, les éléments déchaînés de cet exemple, ce sont toutes les épreuves de la vie auxquelles nous pouvons être confrontés. Ceci nous montre que tant que nous portons nos regards sur les circonstances défavorables, elles nous accaparent. Et nous font même douter du pouvoir de Dieu, de sa puissance, de sa capacité à nous aider. Alors au mieux, rien ne se passe. Au pire, comme Pierre, nous enfonçons. Le regard porté sur nous-mêmes, c'est ce que Pierre a fait un petit peu. Là. Non, je vais y passer. Hein. Je tiens à ma vie, moi. Le regard porté sur nous-mêmes nous maintient dans nos limites personnelles. Nous empêchant de vivre ce que Dieu a d'illimité en réserve pour nous. Quant au regard que nous pouvons fixer sur les solutions limitées apportées par les hommes, même si elles nous paraissent bonnes, elles sont souvent bonnes, ça ne nous fait pas toujours beaucoup plus avancer. Je reprendrai aussi une citation d'un évangéliste, Reinhard Bonnke, créateur de missions pour toutes les nations, qui dit « Ne faites pas de projet en fonction de ce qui est dans votre poche. Donc en fonction de vos limites. Faites des projets en fonction de la poche de Dieu, qui est illimitée. Et il ajoutait, nous sommes limités dans nos projets parce que nous limitons Dieu dans nos pensées. Dieu pourvoit et agit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est la même chose pour les solutions aux épreuves. Hein. Pareil. Le psalmiste ne disait-il pas la même chose dans Psaume 121:2 ? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra donc le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Même pensée. Hein. Et donc, dites de façon plus humoristique par cet évangéliste. Mais la pensée est la même. Hein. Le fondement, c'est bien la parole de Dieu, la parole de Jésus. Alors comprenons bien que, en toutes circonstances, nous sommes appelés à bien garder le regard fixé sur Jésus, qui peut tout pour nous. Rien ne lui est impossible. Il a tout vécu, Jésus. Il a tout accompli. Il est notre modèle, notre exemple, non seulement en ce qu'il nous a enseigné, mais aussi en ce qu'il a montré au travers de sa vie. Paul nous dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne conformez pas vos vies aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, adoptez une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation. La pensée est toujours la même, hein, dans Parole vivante. Ainsi donc, dans un monde qui n'offre que des solutions limitées, parfois inadaptées, pour certaines même peu recommandables, voire parfois en totale contradiction avec les principes bibliques, soyons vigilants, nous sommes invités à garder les yeux fixés sur Jésus. C'est notre ancre, notre point de repère, notre rocher. Alors revenons, on va terminer, donc 10 minutes. Revenons un peu sur ce que signifie garder les yeux fixés sur Jésus. Alors je ne serai pas exhaustif, hein, loin de là. Car le sujet est vaste. Mais je m'arrêterai sur quelques points qui me semblent significatifs. Déjà, je rappelle l'exhortation de Paul à ce sujet, dans Hébreux 12:1, qu'on a déjà donc lu tout à l'heure. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Hébreux 12, 1-2. Alors il m'est apparu qu'en priorité, garder les yeux fixés sur Jésus, c'est d'abord une attitude de confiance qui le réjouit. Sachant que Paul nous invite, dans Éphésiens 5:10, à discerner ce qui plaît au Seigneur. Alors je peux vous assurer que garder les yeux fixés sur lui, ça le réjouit. Hein. Vous ne pensez pas? Car il désire ardemment une relation intime entre lui et nous. C'est une des vérités fondamentales de la Bible. Hein. Notre Créateur nous a créés afin de nous aimer et il désire être aimé vraiment en retour. C'est l'alliance qu'il nous propose. Dieu se réjouit lorsque nous lui faisons totalement confiance. Un exemple, Abraham Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il a plu à Dieu, parce qu'il lui a fait confiance. Il nous a dit que, par la foi, Abraham partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. Il fallait vraiment avoir une solide confiance. Hein. Je reviens aussi sur le témoignage que nous avons lu ce matin. Ce frère qui s'est converti, il fallait aussi lui avoir une solide confiance dans la parole de Dieu. Car lui, il perdait son logement, son travail, ses amis, tout, tout, pour suivre Jésus. Il a été un petit peu comme Abraham, hein. Il ne savait pas tellement où il allait, hein. Mais il a fait une confiance immense dans la parole de Christ. Ainsi donc, garder les yeux fixés sur notre maître Jésus, c'est d'abord une preuve de confiance en lui. Et qui plus est, Paul nous dit qu'en le contemplant, quand on garde les yeux fixés sur Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On contemple. Que nous dit Paul? Que nous sommes transformés à son image par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3:8. Ça vaut le coup, non? Ça vaut pas le coup de garder les yeux fixés, le regard fixé sur Jésus? Rappelons-nous aussi que Jésus est la parole. Donc, garder les yeux fixés sur Jésus, c'est plonger notre regard dans sa parole. Pourquoi? Bah, pour y apprendre qui il est, ce qu'il dit, ce qu'il a fait, ce qu'il donne, mais aussi ce qu'il attend de nous. Pour aussi aller à sa rencontre, quand je plonge mon regard dans la parole, ne vais-je pas à la rencontre de Jésus? N'oublions pas que lorsque je lis ma parole, c'est pas simplement lire, me nourrir, c'est aussi aller à la rencontre de notre Seigneur. Amen. Pour découvrir ses enseignements, ses préceptes, ses promesses, pour trouver dans sa personne et dans son œuvre les réponses à ce que nous vivons, pour aussi découvrir ses attentes, comme nous l'avons lu. Si cet homme dont nous avons lu le témoignage tout à l'heure n'avait pas plongé les regards dans la parole, il n'aurait jamais su qu'il était inconnu de Jésus. Et il n'aurait peut-être pas été sauvé. Le Saint-Esprit s'est servi de la parole qu'il avait lue pour toucher son cœur. Amen. Garder les yeux de fixés sur Jésus, ben, c'est aussi les détourner de nous-mêmes, de notre petit nombril, c'est-à-dire de nos impressions, de nos raisonnements, de nos idées reçues, dont celle aussi que l'on se fait de Dieu. Parfois on se fait de drôles d'idées. Les détourner de nos désirs, nos convictions. Tout n'est pas forcément mauvais là encore. Mais pensons-nous à lui soumettre tout cela à la lumière de la parole, avant d'en faire notre credo. Nous élaborons parfois pour lui des plans. Nos plans. Ou des actions, nos actions, dont nous pensons parfois qu'elles vont lui plaire. En général, quand on construit un plan pour lui, on dit « Waouh, il va être content, ça va lui plaire. » Mais nous l'a-t-il demandé? Lui a-t-on soumis? Il ne nous demande pas de travailler pour lui selon nos plans, il nous demande de travailler avec lui selon ses plans. C'est différent. Hein. Et instinctivement, notre nature humaine étant toujours là, on se construit parfois des beaux plans. On dit, Seigneur, ça tu vas aimer, tu vas être content. Ça. Je suis sûr. Mais finalement, est-ce ton plan, Seigneur? C'est totalement différent. Garder les offices de Jésus, c'est les détourner des pratiques et valeurs du monde. Ces pratiques, ces valeurs, ces règles, de tout ce qui est fait pour détourner de Jésus notre regard et nos pensées. Parfois avec beaucoup de persuasion, hein. Le monde est persuasif. Hein. Sachant, je le répète, que tout n'est pas rejeté, mais à examiner d'abord en premier à la lumière de la parole de Dieu. C'est aussi cela, avoir le regard fixé sur Jésus. Connaissez-vous les gens de béret? Pas les bérets verts, hein. Ni les bérets basques. Hein. Les gens de béret. Vous avez déjà entendu parler de ça? On n'en parle qu'une fois dans la parole. Dans Actes 17, 11. Et si vous ne les connaissez pas, connaissez-vous leurs particularités? C'est inversé, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, c'est une richesse inouïe. Acte 17, 11 dit « Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. » En ce sens, ils gardaient les yeux fixés sur Jésus. Hein. Et quand je reviens au témoignage de Joseph Tremblay, il a examiné les Écritures pour voir si ce qui lui avait été enseigné et ce qu'il appliquait était vrai. Et il s'appuyait sur les Écritures, ce qui l'a fait changer de vie. Il a fallu une drôle d'humilité de sa part. Hein. Quelle humilité! Enfin, garder les yeux fixés sur Jésus, ça les détournait des ruses subtiles du diable. Tellement subtiles que l'on n'y prend pas assez garde. N'oublions jamais que son objectif est de séparer, j'insiste très subtilement, l'homme de son créateur. Voir comment il a commencé dans la Genèse. Hein. On l'a vu la semaine dernière encore. Et ses méthodes sont toujours les mêmes. Ils ne changent pas. Donc pour nous, ça ne devrait pas être très compliqué de les déjouer. Mais on tombe dedans. Ses méthodes sont toujours les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il utilise quoi? Nos penchants naturels. Nos sens. Nos convoitises. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il veut nous détourner des fondements de la parole, tout en nous persuadant que nous y sommes conformes. Ah, balèze, hein. Voir Ève encore. Il prend plaisir à nous faire entendre ce que nous avons envie d'entendre. À nous faire entendre ce qui nous rassure. Tout en nous faisant croire que ça vient de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Le problème, c'est que l'on se croit parfois bien plus fort que ce que l'on est. Et que l'on s'appuie trop souvent, parfois avec sincérité. Hein. Je ne nie pas la sincérité. Sur nos sentiments, nos raisonnements humains, pour lutter contre les forces spirituelles. C'est l'échec assuré. Et la parole de bien qu'on ne lutte pas contre des forces spirituelles avec nos forces charnelles, mais qu'on lutte contre les forces spirituelles avec des armes spirituelles. Il veut nous détourner. Ça, je l'ai vu, d'accord. Il m'est même arrivé, moi, d'entendre de la part de chrétiens très sincères, vraiment, l'Esprit m'a conduit, l'Esprit m'a dit, pour des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Trois minutes encore. Un pasteur, parmi les pionniers du renouveau évangélique en France, que certains connaissent peut-être, Gilbert Eckenbach, peut-être que... ouais, connaît, dit dans un de ses chants, on peut être sincère et être dans le mauvais train. On peut être sincère et être sur la mauvaise voie. Et pourtant, très sincère. Très sincère. Voir encore le témoignage ce matin. Ce Joseph Tremblay, cet homme, était très sincère. Hein. Ceci me rappelle aussi une prière de David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 69, 23. Puissions-nous faire souvent cette prière à Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bon, je vais passer ça. Alors donc, soyons humbles et très vigilants afin de ne pas participer, parfois même croyant bien faire, à des œuvres qui, ressemblant à la vérité, n'ont rien à voir avec la vérité. Si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous serons gardés de cela et nous reflèterons si. Ah. Tu peux remettre en arrière, Pascal, s'il te plaît, la dernière planche. La dernière planche, tu l'as? Merci. Non, c'est pas celle-là, la dernière. La dernière d'air. Voilà, c'est ça. Merci. Et nous reflèterons sa lumière, son amour. Regardez les yeux fixés sur Jésus, c'est refléter la lumière de Christ. Nous reflèterons son amour, sa justice, sa vérité, mais également sa fermeté. Car Jésus a été, ou est, lumière, amour, justice, vérité et fermeté également. Et nous ne reflèterons pas, dans ce cas, si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous ne reflèterons pas la lumière piégeante de celui qui se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 2, 15. Donc, n'hésitons pas à faire comme les gens de Bérée, maintenant vous les connaîtrez, hein, qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait ou ce qu'ils recevaient dans leur esprit était vrai. Voilà donc, pour terminer, quelques bonnes raisons pour lesquelles nous sommes invités, encouragés à garder les yeux fixés sur Jésus, nous laissant guider par l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Jean 16, 13. Afin que l'Église de Christ, l'ensemble des nés de nouveau d'eau et d'esprit, afin que, l'esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité, afin que l'Église de Christ reste la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3,15. Amen. Soyez bénis, soyons bénis, et que le Seigneur continue à nous conduire dans la vérité de sa parole, et gardons avec foi les regards fixés sur Jésus. Amen. Gloire à Dieu.